Le journal Emeline Ferry. Bonjour Emeline.
Bonjour, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, cette question, quelle stratégie mettre en place pour stopper la rêve partie qui se poursuit en Ille-et-Vilaine? Plus de 2000 fêtards sont rassemblés depuis jeudi soir. Les autorités craignent un cluster géant. Ils se préparent à intervenir. Les autres titres, Emeline?
Un couvre-feu avancé dans 15 départements de l'Est de la France. Tout le monde à la maison à 18h. La mesure entre en vigueur ce soir pour endiguer l'épidémie de Covid. Dans ce journal également, le point sur la vaccination aux États-Unis et le Brexit. Vous entendrez des entreprises corréziennes qui se préparent à un véritable casse-tête administratif dans leurs échanges avec le Royaume-Uni. Et puis, la suite et fin de la saga de bande dessinée Les Ogres Dieux, un album posthume qui sonne comme un testament du scénariste.
Et puis à 8h20, question ce matin au chef cuisinier Thierry Marx. 2021, année de la gastronomie, promise par le Premier ministre. On verra avec lui ce que cela signifie.
France Inter.
Des renforts de gendarmerie envoyés donc en Ille-et-Vilaine.
Oui, pour mettre fin à cette énorme rave party organisée dans le village de Lioron, au sud de Rennes. C'est dans un hangar désaffecté, plus de 2000 fêtards réunis pour fêter le nouvel an et impossible de les déloger depuis jeudi soir. 3 gendarmes ont été blessés la nuit dernière en essayant d'intervenir, leur véhicule incendié. Une réunion de crise a eu lieu hier soir, place Beauvau, avec Gérald Darmanin, pour étudier les différentes options d'évacuation, car l'opération s'annonce délicate, explique Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur.
C'est des dispositifs complexes à mettre en place, sensibles, et qu'il faut pour cela être très nombreux pour permettre d'évacuer dans de bonnes conditions les 2500 personnes sur site. Alors, il n'y a plus aucune entrée sur le site, bien entendu, la situation est figée, mais la zone est contrôlée et toutes les personnes qui en partent pour le moment font l'objet de verbalisation en attendant effectivement d'organiser ce dispositif qui, vous comprenez, demeure complexe face au nombre d'individus et surtout face à leur grande violence. C'est bien une opération de type maintien de l'ordre, donc il faut toujours réfléchir au désordre que cela crée ou au danger, notamment en termes d'usage de la force que cela peut créer. Donc c'est des dispositifs qui doivent être vraiment construits, réfléchis par les professionnels du maintien de l'ordre et sous l'autorité du préfet de département.
Et plus de 200 fêtards ont déjà quitté le site et ont été verbalisés.
Fini les promenades ou les virées shopping en fin d'après-midi.
Tout le monde chez soi à 18h. Le couvre-feu avancé dès ce soir dans 15 départements de l'Est, mais aussi dans les Alpes-Maritimes et dans les Hautes-Alpes. Une mesure décriée par de nombreux commerçants et restaurateurs, mais elle était inévitable pour contenir l'épidémie. Christian Rabot, professeur de maladies infectieuses à l'hôpital de Nancy, en est convaincu. Son département, la Meurthe-et-Moselle, cochait toutes les cases pour cette mesure.
Le département de Meurthe-et-Moselle est concerné dans la mesure où on voit effectivement à nouveau l'épidémie prendre de l'ampleur et de la vitesse chez nous. Et c'est sur ces critères d'incidence, de nombre de patients positifs pour 100 000 habitants sur 7 jours, qu'étaient décidés ces critères de renforcement des mesures. On est à un endroit où le virus recircule fort en population générale. Notre hôpital est déjà saturé. On a plus de 170 patients Covid hospitalisés actuellement au CHR rue de Nancy, et nos réanimations, c'est pareil, sont pour plus de 2/3 occupées par des patients Covid, donc on sent qu'on est à nouveau dans une zone de grande tension. En tout cas, nous on était très dans l'attente qu'on fasse plus, on regrette plutôt le temps perdu avant la mise en place des mesures, plus qu'aujourd'hui on challenge les mesures. Malheureusement, je crois qu'il faut tester, il faut faire plus. Là, on fait plus, c'est bien. Est-ce qu'il fallait faire encore plus tout de suite? C'est tout à fait possible, hein, mais c'est difficile de l'affirmer dès à présent.
Et il faudra attendre une quinzaine de jours avant de voir les effets du couvre-feu avancé à 18h. La liste des départements concernés est sur franceinter.fr. Et face au virus, il reste notre principal espoir, le vaccin. Oui, mais on est encore loin des objectifs fixés. Emmanuel Macron a promis qu'il allait lutter contre une lenteur injustifiée. Aux États-Unis, la pandémie continue de faire des ravages. Plus de 3500 morts chaque jour. Le pays dépasse les 20 millions de cas. Et les objectifs de vaccination ne sont pas atteints. Bien au contraire, Loïc Loury.
20 millions d'inoculations avant le 31 décembre. C'est la barre qui avait été fixée. Le compte aujourd'hui n'y est pas du tout, avec moins de 3 millions de personnes vaccinées. Principale raison, le sous-financement des services de soins. Car si le gouvernement fédéral fédérale a dépensé sans compter pour la recherche d'un vaccin, puis sa distribution, c'est désormais à chaque État de prendre le relais. Or, la plupart n'a pas les moyens pour ouvrir des sites de vaccination ou embaucher du personnel. À cela, il faut ajouter des hôpitaux déjà débordés par le rebond épidémique et l'absence de consignes logistiques claires, alors que cette première phase vaccinale devrait être la plus facile à mettre en œuvre avec des candidats, soignants et personnes âgées bien identifiés. Enfin, il faut déjà composer avec les réticents. 2 Américains sur 10 assurent qu'ils passeront leur tour, quoi qu'il arrive. Dans l'État conservateur de l'Ohio, le gouverneur affirme que 60% des employés de maisons de retraite ont déjà refusé de se faire vacciner. New York, Loïc Loury, France Inter.
Ça y est, le divorce est prononcé. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont officiellement séparés et il faut apprendre à vivre l'un sans l'autre, à se familiariser avec les nouvelles règles, notamment en matière d'exportation. Pour les entreprises françaises qui vendent en Angleterre, il n'y aura pas de droits de douane supplémentaires. C'est un soulagement, mais ce sera quand même un casse-tête administratif. Exemple en Corrèze avec Philippe Graziani.
Berlim redoutait des droits de douane. Le Royaume-Uni est le deuxième client à l'export après l'Espagne de la coopérative. Elle y vend entre 8 et 12% de ses pommes chaque année, rappelle Virginie Virevial, commerciale chargée du marché anglais.
On respire, voilà. Ça va nous permettre de travailler à peu près normalement, on va dire.
Et les nouvelles procédures d'export vers l'Angleterre ne lui font pas peur. Elle le fait déjà pour de nombreux pays aux réunions. C'est moins le cas pour Jean-Louis Duclos, patron d'une scierie à Saint-Genès-au-Merle. Il vend 15% de son bois outre-Manche.
La paperasserie, tout ce qui est dédouanement et le phytosanitaire. C'est vrai que c'est une complexité des formalités pour les petites entreprises qui n'ont pas de services et qui n'ont pas l'habitude d'exporter, grand export on va dire.
Jean-Louis Duclos a résolu le problème en passant par un transitaire dont il partagera le coût avec son principal client anglais. De nouvelles procédures qui auront une répercussion sur le prix de son bois, comme pour Perlim sur les pommes, sans doute, mais très peu, sauf si, craint Virginie Virevial.
Ce qui est très très difficile actuellement, c'est de trouver des transporteurs voulant se rendre en Grande-Bretagne depuis le blocage qu'il y a eu. On a des coûts de transport qui doublent. Bon, la situation commence à se résorber, mais globalement, je pense que les coûts des transporteurs vont augmenter.
Et les clients anglais ont déjà fait savoir qu'il ne serait pas question de répercuter ces coûts sur leurs prix.
Reportage Philippe Graziani de France Bleu Limousin.
Les amateurs de bande dessinée l'ont peut-être découvert au pied du sapin.
Ou alors il est encore temps d'aller l'acheter. Le 4e et dernier album de la saga des Ogres Dieux, La Première Née, album de bande dessinée posthume créé par Hubert, mort en février, et Bertrand Gatignol, qui nous replonge dans cet univers dark fantasy. On revient aux origines d'une histoire familiale où le pouvoir génère la folie, Jacqueline Petrose.
Cette histoire de géants qui s'entre-déchirent est celle d'une famille digne des plus grandes tragédies grecques ou shakespeariennes. Avec Première Née, nous sommes avant le commencement de Petit, le premier tome. Le récit de Bragante est celui d'une femme qui lutte. Elle raconte ses temps anciens du début de la puissance des géants et leur relation barbare avec les humains. Bragante, celle qui défia son père et ses frères en refusant de n'être qu'un ventre pour enfanter. Pourtant, alors qu'elle aime les livres et le savoir, elle n'échappera pas à l'attraction du pouvoir et de la cruauté. Ce tome ultime, qui peut se lire seul, est d'une redoutable efficacité. Le regretté Hubert traite ici avec maestria des tourments de l'âme pour tenter d'aller contre son destin. Mais avec Nita, Hermione, la future reine et les combats de Bragante, c'est surtout la question de la place des femmes dans des sociétés patriarcales hostiles qu'il soulève avec force. Comme dans chaque tome, l'alternance entre BD et récits évoquant les contes initiatiques est une idée géniale qui nous implique encore plus dans l'histoire. Et que dire des dessins saisissants de Bertrand Gatignol et du découpage fougueux, si ce n'est que le noir et blanc a ici une flamboyance inouïe.
Les Ogres Dieux, la première née, le 4e et dernier tome de la saga par Hubert et Bertrand Gatignol. Un coup d'œil vers le Vendée Globe et les skippers à l'avant qui se préparent à affronter une tempête. Yannick Bestaven en tête et son dauphin Charlie Dalin vont passer le Cap Horn dans la soirée ou dans la nuit. Un passage déjà effrayant en temps normal à la pointe sud de l'Amérique du Sud et qu'il est encore plus dans ces conditions météo. Emma Sarango.
Des vents à 70 km/h, des rafales à près de 100 km/h et des vagues de 7 voire 8 mètres de haut. Ce qui attend les deux skippers de tête ressemble bien à la légende terrifiante du Cap Horn. Et pour le coup, tous les deux jouent de malchance, selon Christian Dumas, le météorologue du Vendée Globe.
En période hivernale, il y a souvent des tempêtes de ce type-là au Cap Horn. Durant l'été austral, donc la période actuelle, Il y en a moins souvent, mais il y en a. Souvent, on passe le Cap Horn dans des conditions ventées, mais pas aussi ventées que ça.
Certes, ça n'est pas la première dépression que traversent les skippers en 55 jours de course, mais cette fois, c'est encore plus délicat.
S'ils étaient en pleine mer, ils pourraient se mettre ce qu'on appelle en fuite. Donc, ils se mettraient plein vent arrière et attendre que ça passe. Et puis, le bateau avance. Il n'y a pas d'obstacle devant, mais là, il y a des obstacles devant. Le passage est assez étroit entre la zone où il y a des icebergs et puis le Cap Horn. Donc, on est contraint quoi, dans ce passage-là.
Un front qui va durer une vingtaine d'heures, tout au plus. Mais il ne faudra pas souffler trop vite, prévient déjà Christian Dumas.
Dans les jours qui suivent le Cap Horn, on peut avoir encore le long de l'Amérique du Sud des vents très, très forts. Notamment un vent qui s'appelle le Pampero, l'air froid qui descend de la cordillère des Andes et qui peut être aussi très très violente.
Les skippers qui ouvriront l'œil au passage du Cap Horn en espérant apercevoir le seul bout de terre visible avant les sables d'Olonne.
Le récit du Vendée Globe par Emma Sarango.
Dans le journal d'Emeline Ferry. À tout à l'heure, vous reviendrez dans une heure, Emeline. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Pierre Rameau, les gelées sont encore fréquentes ce matin.
Oui Eric, on observe actuellement moins 8 degrés à Aurillac, moins 4 à Angers et Tours, entre moins 2 et moins 3 en région parisienne, moins 1 à Nancy et Reims. Et attention au brouillard parfois givrant entre l'Est parisien et les Ardennes. Et puis côté ciel, aujourd'hui ça sera souvent nuageux, avec de très faibles chutes de neige ce matin en région Rhône-Alpes et jusque vers les Alpes du Sud. Elles gagneront cet après-midi le Massif Central puis l'Occitanie en soirée. Attention, le risque d'avalanche reste élevé dans les Alpes, le Massif Central et la montagne Corse. Prévoyez des averses le long des côtes de la Manche, toujours des pluies orageuses entre les Bouches du Rhône et le Var et de la Côte d'Azur à la Corse. Mistral et Tramontane soufflent encore jusqu'à 90 km/h. Et puis côté température, les maximales évolueront généralement entre 1 et 7 degrés, comptez 10 dans l'extrême sud-est et jusqu'à 12 en Corse.
Jean-Pierre Rameau de Météo France.